Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 14, Daf Yud Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu dans la Mishnah que la poutre doit être suffisamment large pour pouvoir supporter une brique d'un tefach et demi de large. Cependant, la Mishnah conclut qu'il est suffisant que cette poutre ait un tefach de largeur. Alors la Gemara demande, tefach, il est suffisant que la poutre ait un tefach de largeur, tefach ou mertzabae, il faut qu'elle ait une largeur d'un tefach et demi pour pouvoir supporter la brique. La Gemara répond, kivan derachav lekabel tefach, puisque la poutre est suffisamment large pour recevoir un tefach de cette brique, donc les deux tiers de cette brique, idach chatzi tefach, le demi-tefach restant, malbinle betina, mashehu mehaigisa ou mashehu mehaigisa, il peut se contenter d'étaler un peu de ciment de ce côté de la poutre et un peu de ciment de ce côté de la poutre, vekaima, et cette brique tiendra. Donc finalement, on peut se contenter d'une poutre d'un tefach de largeur. Amar Rabba Bar Ravuna, Korach Yamru, la poutre dont on parle, Tzricha Shetehe Bria Lekabel Ariach, elle doit être suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique, ou Mami Dekora, mais ceux qui supportent la poutre, par exemple, si la poutre a été placée sur des chevilles ou des vis, Enam Tzrichim Sheyu Briin Lekabel Kora Variach, ne doivent pas nécessairement être suffisamment solides pour pouvoir supporter à la fois la poutre et la brique en question. Soit ceci, soit ceci, c'est-à-dire non seulement la poutre, mais même ceux qui supportent la poutre, doivent être suffisamment solides pour pouvoir supporter à la fois la poutre et la brique. Amar Rav Shechet, Hiniar Kora al Gabem Avoui, celui qui a placé une poutre à l'entrée d'une impasse ou paras aléa marcelet, et il a étendu une natte sur cette poutre pour renforcer son effet de cloison, mais il a soulevé cette natte du sol de manière à laisser une distance de 3 tfachim entre le sol et la natte. Kora en kan, mechitza en kan. Il n'y a ici ni une poutre, ni une cloison. C'est-à-dire, la Gemara explique, Kora en kan, la poutre n'existe pas ici, de hamichasia, car elle est recouverte de la natte. On ne peut pas dire donc que cette poutre permet de porter dans l'impasse. Mechitza en kan, il n'y a pas non plus ici de cloison, de haviala, mechitza shakdaim bokindba. Car du fait que cette cloison, donc cette natte, est éloignée du sol d'une distance de 3 tfachim, il s'agit donc d'une cloison qui peut être facilement traversée par des chevreaux, cette cloison n'est pas valable. Finalement, il sera interdit de porter dans cette impasse à l'aide de cette poutre recouverte de cette natte.
Nous sommes Eruvin Daf Yuddalet Amud Alef à la 13e ligne du haut de la page. La Gemara est en train de traiter des lois de la mise en place de la poutre à l'entrée de l'impasse pour pouvoir y porter. Tanu Rabbanan, le Chachamim ont enseigné dans une braïta, Kora Hayotza Mi Kotelze, une poutre qui part d'un des murs latéraux de l'impasse, Ve'ena No Gaat Be Kotelze, mais n'arrive pas au deuxième mur latéral de l'impasse, donc n'arrive pas au mur d'en face, Ve'chen Shte Korot, il en est de même dans le cas où il y a deux poutres, Achat Yotza Mi Kotelze, une qui part d'un des murs latéraux de l'impasse, Ve'achat Yotza Mi Kotelze, et l'autre part de l'autre mur latéral de l'impasse, donc du mur d'en face, Ve'enan Nogot Zubezu, mais au milieu, elle ne se touche pas. Donc finalement, dans les deux cas, la poutre est incomplète. Pachot Mishlosha, si la distance entre les deux poutres, ou entre la poutre et le mur, est de moins de 3 tfachim, nous pouvons appliquer le principe de la voûte et considérer donc que l'espace entre les deux poutres, ou entre la poutre et le mur, ont été comblés. Par conséquent, En tsarich lehavi kora acheret, il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre entière qui part d'un mur à l'autre. Shlosha, mais si la distance entre les deux poutres ou entre la poutre et le mur est de 3 tfachim ou plus, tsarich lehavi kora acheret, il faudra amener une poutre supplémentaire qui parte d'un mur à l'autre pour pouvoir porter dans l'impasse. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, pachot midalet, si la distance entre la poutre et le mur ou entre les deux poutres est de moins de 4 tfachim, selon lui, nous pouvons appliquer le principe de la voûte et considérer que l'espace entre les deux poutres ou entre la poutre et le mur ont été comblés. Par conséquent, en tsarich lehavi korah acheret, il ne sera pas nécessaire d'amener une autre poutre pour pouvoir porter dans cette impasse. Arba, mais si l'espace entre les deux poutres ou entre la poutre et le mur est de 4 tfachim ou plus, tsarich lehavi korah acheret, il faudra amener une autre poutre et la placer pour pouvoir porter dans cette impasse. Vechen shte korot hamatimot, et la halakha est la même dans le cas de deux poutres parallèles, lo bezouk de lekabel ariach, dans le cas où l'une n'est pas suffisamment large pour pouvoir supporter une brique d'un tefach et demi, velo bezouk de lekabel ariach, et l'autre non plus n'a pas la largeur réglementaire pour pouvoir supporter une brique, im mekablot ariach le rochbo tefach, si ces deux poutres sont jointes de manière à ce qu'elles puissent supporter une brique dans le sens de la largeur, c'est-à-dire ces deux poutres ensemble, elles sont suffisamment larges pour supporter une brique d'un tefach et demi de large, tefach, et ensemble, elles ont la largeur requise d'un tefach. En tsarich lehavi korah acheret, il ne sera pas nécessaire de placer une autre poutre pour pouvoir porter dans l'impasse des imlav, mais si ensemble, ces deux poutres n'atteignent pas la largeur d'un tefach réglementaire, tsarich lehavi korah acheret, il faudra placer une autre poutre pour pouvoir porter dans l'impasse. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, im mekablot ariach leorko shlosha, si ces deux poutres, même si elles n'ont pas ensemble la largeur d'un tefar, si elles sont disposées de manière à pouvoir supporter une brique dans le sens de la longueur qui est de 3 tfachim, c'est-à-dire que les poutres elles-mêmes sont espacées de légèrement moins que 3 tfachim, en tsarich lehavi korah acheret, il n'est pas nécessaire de placer une autre poutre à l'entrée de cette impasse des imlav, mais sinon, si elles ne sont pas disposées de manière à supporter une brique dans le sens de la longueur, tsarich lehavi korah acheret, il faudra placer une autre poutre pour pouvoir porter dans l'impasse. Maintenant, si ces deux poutres sont disposées conformément aux avis du premier auteur de la Braïta ou de Rabban Shimon ben Gamliel selon le cas, mais hayu achat lemala ve'achat lemata, une était placée plus haut et l'autre était placée plus bas. Donc finalement, elles ne sont pas au même niveau. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, ro'im et ha'eliona keilu hilemata, nous considérons que la poutre supérieure est plus basse, donc au même niveau que la poutre la plus basse, ou bien ve'et ha'tartona keilu hilemala, nous considérons que la poutre inférieure est au-dessus, c'est-à-dire au même niveau que la poutre supérieure, et donc il est permis de porter dans l'impasse. Ubilvad shelotehe eliona lemala mikafama, mais à la condition que la poutre supérieure ne soit pas placée au-dessus de 20 coudées à partir du sol, vetartona lemata masara, et que la poutre inférieure ne soit pas disposée à moins de 10 tfachim du sol. Amar Abaye, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, savarla keavuha bechada. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense comme son père sur un point, upalig aleh bechada, mais il est en désaccord avec lui sur un autre point. L'agma précise, savarla keavuha bechada. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda pose comme son père Rabbi Yehuda sur un point des Hitler Roïm, qui applique le principe selon lequel on peut considérer la nature de la poutre ou sa disposition comme si elle pouvait supporter une brique, bien que réellement elle ne le peut pas, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Ou palig aleh bechada. Cependant, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda est en désaccord avec son père Rabbi Yehuda sur un point des Ilou, Rabbi Yehuda savar. Car nous avons vu au début du chapitre que Rabbi Yehuda pense que la poutre est valable même si elle est placée au-dessus de 20 coudées à partir du sol. De Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda savar, tandis que son fils Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda pense, betor kaf, si la poutre est placée à moins de 20 coudées du sol, in, oui, la poutre est valable, le malami kaf, mais si elle est placée à plus de 20 coudées du sol, l'eau, non, la poutre n'est pas valable. Car, comme il le dit clairement dans la Braïta, si la poutre supérieure est placée à plus de 20 coudées du sol, elle ne sera pas valable. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rechava, cette poutre doit avoir une largeur d'un tefach, soit environ 10 cm, afalpi shenabria, même si elle n'est pas suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique. Matnele Rabbi Yehuda lechia bar rav kameh derav. Rabbi Yehuda enseignait les lois de Hérouv, notamment quelles doivent être les caractéristiques de la poutre placée à l'entrée de l'impasse à Chia Bar Rav en présence de Rav. Rabbi lui a dit que la halakha est rechava, cette poutre doit être suffisamment large pour supporter une brique, donc elle doit avoir un tefar de large, afalpi shenabria, même si elle n'est pas suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique. Amarle, Rav lui a dit à Rav Yehuda, atniye rechava ubria, enseigne à mon fils que la halakha est que cette poutre doit être à la fois suffisamment large pour supporter une brique, donc elle doit avoir un tefar de large, et aussi elle doit être suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique, conformément à l'opinion des Chachamim. La Gemara demande, Veha Amar Rav Ilai Amar Rav, Rechava Arbaa Afalpi Shenabria. La poutre doit avoir 4 tfachim de large, soit environ 40 cm, et cela, même si elle n'est pas suffisamment solide pour supporter une brique. En tout cas, nous voyons que la poutre ne doit pas être suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique. La Gemara répond, Rechava Arbaa Shani. Lorsqu'elle a une largeur de 4 tfachim, c'est différent, car elle est bien visible. Par conséquent, tout le monde sera d'accord que même si elle n'est pas suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique, elle sera valable. Mais lorsqu'elle est plus petite, il faudra en plus qu'elle soit suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique. Nous avons expliqué ce passage selon la note marginale au nom du Tosfot Echanim et selon le commentaire de Rabbi Meir rapporté dans le Tosfot Arosh. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Haïta shel kash » etc. Si cette poutre était en paille ou en roseau, nous la considérons comme si elle était en métal et donc suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique. Alors la Gemara demande « Maïka mashmalan » qu'est-ce que cette partie de la Mishnah nous enseigne de nouveau ?« D'amrinan roïn » que nous appliquons le principe selon lequel nous considérons que la poutre possède des caractéristiques qu'elle n'a pas réellement. Si c'est ainsi, « Haïnouhar » cela revient au même que nous avons vu auparavant. En effet, nous avons vu auparavant, selon Rabbi Yehuda, que si la poutre n'est pas suffisamment solide pour pouvoir supporter une brique, nous la considérons comme si elle était suffisamment solide pour pouvoir la supporter. Donc finalement, qu'est-ce que cette partie de la Mishnah nous enseigne de nouveau? L'Agma répond, si nous n'avions que le premier passage de la Mishnah, on aurait dit « Mahud et Tema », on aurait pu penser dire « Bemina Amrinan », c'est uniquement lorsqu'il s'agit de la même matière. Nous appliquons le principe selon lequel nous considérons que la poutre possède des caractéristiques qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, dans le premier passage de la Mishnah, il s'agit d'une poutre en bois, mais qui n'est pas suffisamment solide. Dans ce cas, nous la considérons comme étant suffisamment solide, donc plus épaisse. Nous ne changeons pas la matière de la poutre. Chez l'Obemina, mais lorsqu'il ne s'agit pas de la même matière, comme dans le cas de la poutre en paille, qu'il faut considérer comme étant en métal, l'Omrinan, nous n'appliquons pas ce principe selon lequel nous considérons que la poutre possède des caractéristiques qu'elle n'a pas. Kamash Malan, c'est pour cela que cette partie de la Mishnah nous enseigne que nous pouvons appliquer ce principe même pour changer la matière de la poutre, pour la considérer comme étant en métal et non pas en paille comme elle l'est réellement. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Akuma, si la poutre est tordue, Ro'inota ki'ilu hipshuta, nous la considérons comme étant droite, et donc elle peut supporter une brique. » La Gemara demande « Pshita, c'est évident, puisque nous avons vu précédemment que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, nous considérons que la poutre possède des caractéristiques qu'elle ne possède pas réellement. » La Gemara répond « Kamash malan, cette partie de la Mishnah nous enseigne que de Rabbi Zera, ce que Rabbi Zera a enseigné. D'amar Rabbi Zera, hi betoch amavui, si la poutre est placée dans les limites de l'impasse, vak mumita chutz lamavui, et sa partie bombée se trouve à l'extérieur de l'impasse, ou bien hi betoch esrim, si la poutre est placée à moins de 20 coudées du sol, vak mumita lemala me esrim, et sa partie bombée se trouve à plus de 20 coudées du sol, ou bien hi lemala me asara, si la poutre est placée à plus de 10 tfachim du sol, Vakmumita le matame asara, tandis que sa partie bombée se trouve à moins de 10 tfachim du sol, Roin, on procède à l'évaluation suivante. Kol she'ilu yinatel akmumita, si on enlève la partie bombée, ve'en benze le ze shlosha, et entre les deux parties restantes de la poutre, il n'y a pas une distance de 3 tfachim, on peut donc appliquer le principe de la voûte, selon lequel l'espace entre les deux poutres est comblé. En tsarich la'avi korach eret, par conséquent, il ne sera pas nécessaire de placer une autre poutre à l'entrée de cette impasse, de Imlav, et sinon, si en enlevant la partie bombée, il y a un espace entre les deux parties de la poutre de plus de 3 tfachim, Sarich lehavi korah acheret, il faudra placer une autre poutre à l'entrée de cette impasse. Le chidouche de la Mishnah est donc, comme l'enseigne Rabbi Zera, que nous pouvons considérer que la poutre est droite, bien qu'elle soit bombée, et la partie bombée se trouve en dehors de la limite réglementaire pour placer la poutre. Si toutefois, en enlevant la partie bombée qui se trouve en dehors des limites réglementaires pour placer la poutre, il n'y a pas un écart de 3 tfachim entre les deux parties restantes de la poutre. Alors la Gemara demande, Hanami Pshita, ceci est aussi évident, puisque nous savons que nous pouvons appliquer le principe de la voûte, et d'autre part nous savons que nous pouvons considérer que la poutre a des caractéristiques qu'elle ne possède pas réellement. Il n'y a donc pas de chidouche dans l'enseignement de Rabbi Zera. Et aussi, il n'y a donc pas de chidouche dans la Mishnah. La Gemara répond, Hi betoch mavuy ve'akmu mita chutz lemavuy itzarich aleh. Le chidouche de la Mishnah est dans le cas où la poutre est placée dans les limites de l'impasse et la partie bombée se trouve en dehors des limites de l'impasse. Mahou de Tema, on aurait pu penser dire que dans ce cas la poutre n'est pas valable parce que l'ichouj dilma ate l'amchouche batra, car on devrait craindre que les habitants de l'impasse ne se fient à la position de la poutre et risquent donc de porter même dans la partie où la poutre se trouve en dehors des limites de l'impasse. Kamash malan, c'est pour cela que la Mishnah a eu besoin de nous enseigner que même dans ce cas la poutre est valable, car nous estimons que les gens feront attention de ne pas dépasser les limites de l'impasse. D'autant plus que la partie du dépassement est de moins de 3 tfachim de large. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Agula, si la poutre est ronde et par conséquent elle ne peut pas supporter une brique, Ro'inotar keilu himerubat, nous la considérons comme étant carrée et donc elle peut supporter une brique, et cela à la condition qu'elle ait un diamètre d'un tefach. Alors la Gemara demande, Hatou la Mali, pourquoi a-t-on besoin aussi de ce passage de la Mishnah, puisque nous savons déjà que selon l'opinion de Rabbi Yehuda, nous considérons que la poutre possède des caractéristiques qu'elle ne possède pas réellement. La Gemara répond, Sefa itzarich aleh. La Mishnah a eu besoin de nous enseigner la conclusion de la Mishnah, qui est la suivante, Kol shiyesh behekefo shlosha tefachim, yesh bo rochav tefach. Tout objet dont la circonférence est de 3 tefachim a un diamètre de 1 tefach. La Gemara demande, Menahanemile, d'où sait-on ces choses-ci? C'est-à-dire, d'où est-ce que les Chachamim savent que l'on doit évaluer le rapport entre la circonférence et le diamètre comme étant de 3 à 1, alors que mathématiquement, ce rapport n'est pas exact, voir le Tosfot Arosh. La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra, le Pasuk dit dans Melachim Aleph, Perek Zayin, Vayas et Hayam Mutsak, et il a fabriqué le bassin en une coulée de cuivre fondu, Esser Bahama Misfato Atsfato, il y avait une distance de 10 coudées d'un bord à l'autre, donc son diamètre était de 10 coudées, Agol Saviv, et ce bassin était rond, Bechamesh Bahama Komato, et la hauteur de ce bassin était de 5 coudées, Vekav Shloshim Bahama Yasuv Oto Saviv, et une ligne de 30 coudées entourait ce bassin, autrement dit, sa circonférence était de 30 coudées. Nous voyons ici que le Passouk emploie ce rapport de 3 à 1 pour décrire le rapport entre la circonférence et le diamètre, bien que, comme nous l'avons dit, mathématiquement, cette mesure n'est pas exacte. En la Gemara demande, comment se fait-il que le Passouk dise que la circonférence du bassin était de 30 coudées, Veha Ikas Fato, pourtant il faut prendre en considération le bord du bassin. En effet, le Passouk donne la mesure du diamètre intérieur du bassin, et en donnant la mesure de la circonférence, il faut prendre en considération l'épaisseur du bord, qui était apparemment de 1 tefach, comme l'était l'épaisseur du bassin. L'agma répond, Amar Rafapa, Sfato, Sfat Perach Shushan Ktivbe. En ce qui concerne le rebord de ce bassin, le Passouk dit clairement que son rebord était aussi fin qu'une pétale d'une fleur. Dirtiv, car le Passouk dit, toujours dans le même chapitre, Ve'ovio tefar, et l'épaisseur du bassin était d'un tefar, usfato, il faut lire, comme le précise le bar, Kema'ase sfatkos perar shoshan. et son rebord étaient faits comme on fait le rebord d'un gobelet. Il avait l'épaisseur d'une pétale de fleur. Et le pasouk conclut, Alpaim bat yachil, ce bassin contenait 2000 bat. Bat veut dire une effa qui contient 3 CA, sachant qu'une CA est l'équivalent d'environ 16 litres 200, une effa est donc l'équivalent de 48 litres 600 environ. Ce bassin contenait donc environ 97 200 litres. Alors, la Gemara demande Vehaïka Machéou. Pourtant, il faut prendre aussi en considération la mesure infime que représente l'épaisseur du bord du bassin, qui, comme nous l'avons dit, était équivalente à l'épaisseur d'une pétale de fleur. Donc finalement, la mesure de 30 coudées est fausse. La Gemara répond, Kika Hashiv, lorsque le pasouk a calculé la circonférence de ce bassin, Migava et Kachashiv, il l'a calculé de l'intérieur. Donc finalement, la mesure donnée par le pasouk correspond exactement au rapport de 3 à 1 que nous voyons dans la Mishnah. Tanya Rabbi Chiya. Rabbi Chiya a enseigné une braïta. Yam She'asa Shlomo, le bassin qu'a fabriqué Shlomo Ameler, Hayam Marzik Me'avachamishim Mikve Tahara, contenait l'équivalent de 150 fois le volume réglementaire d'un bassin rituel de purification. La Gemara demande Mikde Mikve Kamahave. Pourtant, quel est le volume réglementaire d'un bassin rituel de purification? Arbaim Sea, c'est l'équivalent de 40 Sea, soit environ 648 litres. Kedetania, comme il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Tedvav, Verachat Bamaim, et il lavera dans l'eau.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yud Dalet Amud Bet. Le terme Bamaim dans l'eau veut dire de l'eau, si l'on peut dire reliée. Il ne s'agit donc pas d'eau courante, Beme Mikve, mais plutôt de l'eau recueillie dans un bassin. Le pasouk continue en disant Kol Besaro, toute sa chair. De là nous apprenons Maïm chez Kol Gufo Olebahem. Il doit avoir une quantité d'eau qui soit suffisante pour couvrir tout le corps. Mais Kamahen, et combien d'eau faut-il? Quelle doit être la taille du bassin? Ama Alama Berum Shaloshamot. Il faudra que le bassin ait une taille d'une coudée sur une coudée, soit environ 60 cm sur 60 cm, sur une hauteur de 3 coudées, soit environ 1,80 m. Veshiaru Chachamim Memikve Arbaim Sea. Et les Chachamim ont évalué l'eau nécessaire pour le bassin rituel de purification. Il faut que cette eau soit l'équivalente de 40 Sea, soit environ 648 litres. Alors la Gemara évalue le volume du bassin comme s'il s'agissait d'un cube. Kamahavulehu, quel est le volume de ce bassin? Si on calcule 10 fois 10 fois 5, nous arrivons à Chameshmea Garmide, à 500 coudées cubes. Or, la taille du bassin rituel est de 3 coudées cubes. Finalement, les Tlatmea, pour 300 coudées cubes, Mea, nous avons 100 fois l'équivalent d'un bassin rituel. Les Mea Vechamishin, en ajoutant 150 coudées cubes, Chamishin, nous arrivons à l'équivalent de 50 fois le volume du bassin rituel. Finalement, Be'arba Me'a Vechamishim Sagia, avec 450 coudées cubes, cela suffit, nous arrivons au calcul de 150 fois l'équivalent du bassin rituel, alors que selon notre calcul précédent, le bassin avait un volume de 500 coudées cubes. L'agma répond, Hanemile, quand ces choses sont dites, que le volume de ce bassin est calculé de cette manière, et nous arrivons donc à 500 coudées cubes. Beriboua, c'est s'il s'agissait effectivement d'un cube. Yam Shasa Shlomo, le bassin fabriqué par Shlomo Ameler, à Golaya, était rond. C'était en fait un cylindre, dont le volume est équivalent à la somme de sa surface multipliée par sa hauteur. La Gemara demande, Mirde Kama Meruba Yeter Ala Igul, pourtant, de combien la surface d'un carré est plus grande que celle d'un cercle? Revia, c'est un quart. En effet, en appliquant la formule Pierre au carré selon la version simplifiée de la Gemara, qui attribue le chiffre 3 à pi, la surface du cercle est donc l'équivalent de 3 fois le rayon au carré, tandis que la surface du carré est équivalente à 4 fois la moitié de son côté au carré. Donc finalement, la surface d'un cercle est équivalente aux 3 quarts de la surface d'un carré dont le côté est équivalent au diamètre de ce cercle. Donc en fait, un quart de moins. Puisqu'il s'agit ici d'un cylindre, le volume sera calculé de la même manière que s'il s'agissait d'un cube. Donc, en conclusion, la différence entre ce cube et ce cylindre serait d'un quart. Par conséquent, les Arba Mea, pour 400 coudées cubes que nous avions s'il s'agissait d'un cube, puisqu'il s'agit d'un cylindre, ce volume serait en fait 300 coudées cubes. Nous avons l'équivalent de Mea, 100 bains rituels. Les Mea, pour les 100 coudées cubes supplémentaires que nous avions précédemment, en diminuant d'un quart, nous avons donc 75 coudées cubes, et Slim Vechamisha, ce qui est l'équivalent de 25 bains rituels. Hane Mea Veslim Vechamisha à vous. Finalement, la contenance du bassin de Shlomo HaMelech serait l'équivalent uniquement de 125 bains rituels et non pas de 150, comme l'a enseigné Rabbi Chia. L'Agma répond, Tane Rami Bari Cheskel, Yam Sheasa Shlomo, le bassin qu'a fabriqué Shlomo HaMelech, était constitué de la manière suivante, Shalosh Amot Tartonot, les 3 coudées inférieures Merubaot étaient carrés, Ushtai Melionot Agulot, et les 2 coudées supérieures étaient rondes. Donc, le volume des 3 coudées inférieures était équivalent à 300 coudées cubes, ce qui est l'équivalent de 100 bains rituels, et les 2 coudées supérieures, s'il s'agissait d'un cube, auraient un volume de 200 coudées cubes, puisqu'elles étaient rondes. Selon le calcul précédent, nous diminuons d'un quart, nous arrivons à 150 coudées cubes, ce qui correspond à l'équivalent de 50 bains rituels. Finalement, nous arrivons à la somme de l'équivalent de 150 bains rituels, comme l'a enseigné Rabbi Chia. La Gemara demande, Nehi de Ifra Lomatzita Mart. Il est vrai que tu ne peux pas dire le contraire, que la partie inférieure était ronde et la partie supérieure était carrée, Desfato Agolptiv, car le Pasuk dit clairement, dans Melachim Aleph Perexaim, que son bord était rond. Et la Emma. Mais la question qui se pose, on pourrait dire Chada, que seule la coudée supérieure était ronde, et qu'il y avait donc 4 coudées inférieures carrées et une coudée supérieure ronde. Il y avait donc plus que 150 bains rituels dans ce bassin fabriqué par Shlomo HaMelech. L'Agma répond, Los al Kadatar, il ne peut pas te venir à l'esprit une chose pareille. Dirtiv, car le Pasuk dit clairement, toujours dans le même chapitre, Al Paim Bat Yachil, ce bassin contient 2000 bats. Bat Kama Havia, qu'est-ce que représente le bat? Shalosh Seim. Le bat représente l'équivalent de 3 CA. Dirtiv, car le Pasuk dit dans Yechezkel Memhe, Maasar Habat Min Hakor, le bat représente le dixième du cours. Le cours est une mesure qui représente 30 CA. Finalement donc, le bat représente 3 CA, ce que la Torah appelle aussi Epha. Finalement, puisque ce bassin fabriqué par Shlomo HaMelech contenait 2000 bats, Dehava Lehu Shita Alfei Grivé. Ce bassin contenait donc 6000 CA, ce qui représente 150 fois 40 CA, qui est la mesure du bain rituel, comme nous l'avons vu précédemment. La Gemara demande Vehaktiv, pourtant concernant ce bassin fabriqué par Shlomo HaMelech, il est écrit dans Divrei Hayamim Bet Perek Dalet, Marzik Batim Shloshet Alafim, il contient 3000 bats, donc un tiers de plus. La Gemara répond, Hahu Legodcha. Ce pasouk dans Divrei Hayamim Bet parle de la contenance de ce bassin lorsqu'il est rempli généreusement d'un solide de manière bombée. Sa contenance dans cette situation et d'un tiers de plus, tandis que le pasouk dans Melachim Aleph parle de la contenance de ce bassin lorsqu'il est rempli à ras-bord d'un liquide. Amar Abaye, Shma Amina, nous pouvons déduire de ce psukim Hay Gudsha, le volume de la partie bombée d'un ustensile rempli généreusement d'un solide de manière bombée, Tiltahave, représente le tiers de la contenance totale de cet ustensile. Puisque, comme nous l'avons vu pour le bassin de Shlomo HaMelech, à ras-bord, il ne contenait que 2000 bahts, tandis que lorsqu'il était rempli de manière bombée d'un solide, il contenait 3000 bahts, donc un tiers de plus. Utnan Nami, il est enseigné aussi dans une Mishnah, dans Maseret Kelim, Perek Tedvav, Mishnah Aleph. Shida, c'est une espèce de carrosse, Teva, un coffre ou Migdal, c'est une espèce d'armoire haute, Kaver et Akash, une ruche en paille, Vekaver et Akanim, ou une ruche en roseau, ou Borsfina Alexandrite, et le puits d'un bateau d'Alexandrie. C'est en fait un bassin qui existait dans ces bateaux pour transporter de l'eau douce pour les voyages en mer. Selon le Rachash, nous sautons l'abréviation suivante, chez Yesh Lahem Shulaim, lorsque ces ustensiles ont un fond, Behen Marzikot Arbaim Sea Belach, et s'ils contiennent l'équivalent de 40 Sea de liquide, Shehen Kurain Beavesh, ce qui représente l'équivalent de deux cours de solide, c'est-à-dire 60 Sea de solide, Tehorin, ces ustensiles sont purs, ne sont pas susceptibles de devenir impurs. Nous voyons là aussi que la contenance d'un ustensile rempli généreusement de solide de manière bombée contient un tiers de plus de la somme totale lorsqu'il est rempli de cette manière que s'il était rempli à ras-bord d'un liquide. En effet, la Mishnah parle d'ustensiles qui contiennent 40 CA de liquide, tandis que lorsqu'ils contiennent un solide, ces ustensiles contiennent 60 CA. Nouvelle Mishnah, les Chayaïn chez Amrou, les poteaux dont parlent les Chachamim qu'il faut placer à l'entrée d'une impasse, Govhan Asarat Fachim, doivent avoir une hauteur de 10 Fachim, soit environ 1 mètre, Verochban Veovian Kolcheu, mais leur largeur ou leur épaisseur peut avoir une dimension quelconque. Rabbi aussi Omer, Rochban Shloshat Fachim, la largeur du poteau doit être de 3 Fachim. En la Gemara demande, lorsque la Mishnah dit les Chayaïn Shemru, les poteaux dont on parle, la Mishnah s'exprime au pluriel, les Matnan Stamak Rabbi Eliezer, dira-t-on que notre Mishnah est enseignée sans auteur, correspond à l'opinion de Rabbi Eliezer de Amar Lechayaïn Bainan, qui dit qu'il faut placer deux poteaux à l'entrée de l'impasse. La Gemara répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Maï Lechayaïn, que veut dire la Mishnah lorsqu'elle parle de poteaux au pluriel? Lechayaïn de Alma, elle parle des poteaux en général qu'il faut placer à l'entrée des impasses. La Gemara demande, Yahri, si c'est ainsi, Koranami, en ce qui concerne la poutre aussi, Mipne Korot, la Mishnah aurait dû enseigner les poutres dont parlent les Chachamim au pluriel, ou Maï Korot, et que voudrait dire ce terme les poutres au pluriel, Korot de Alma, les poutres en général qu'il faut placer à l'entrée des impasses. Nous voyons donc que la Mishnah parle de la poutre au singulier, et quand même concernant le poteau, elle s'exprime au pluriel, ce qui correspond finalement à l'opinion de Rabbi Eliezer. La Gemara répond, Hachika Amar, c'est cela que la Mishnah a voulu dire. Otan lechayain shenechleku bahen Rabbi Eliezer vechachamim, ces poteaux à propos desquels il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, Govhan Asarat Fachim, leur hauteur doit être de dit Fachim, verochban veovian kolshehu, et leur largeur et leur épaisseur doit être d'une dimension quelconque. La Gemara demande, Vekama kolshehu, quelle doit être la taille quelconque de la largeur ou de l'épaisseur de ce poteau? La Gemara répond, Tane Rabbi Chia a enseigné dans une braïta, à filou que chuta sarbal, la largeur ou l'épaisseur du poteau peut être équivalente à la largeur ou l'épaisseur du fil qui sert à fermer le manteau. Tana, il est enseigné dans une braïta, à sa lechi le chetimavoui, si une personne a placé un poteau pour la moitié de l'impasse, c'est-à-dire il l'a placé au milieu de sa longueur, il n'a qu'une demi-impasse, c'est-à-dire il ne peut porter que dans la moitié intérieure de l'impasse, jusqu'à l'emplacement du poteau. La Gemara demande, Pshita, c'est évident qu'il ne pourra pas porter au-delà de ce poteau. La Gemara répond, et là plutôt, Emma, il faut lire la Braïta de la manière suivante. Yesh lo chatimavui, il aura la moitié de l'impasse, c'est-à-dire il aura le droit de porter dans la moitié intérieure de l'impasse. Alors, la Gemara demande, Hanami Pshita, ceci est aussi évident que s'il a placé le poteau au milieu de l'impasse, il pourra porter jusqu'à l'emplacement du poteau. La Gemara répond, Mahou de Tema, on aurait pu penser dire l'Ichouj Dilma Atelishtamouche de Koulé, que si on lui permet de porter dans la moitié de l'impasse, il risque aussi de porter dans toute l'impasse, en pensant que le poteau permet de porter dans toute l'impasse, Kamash Malam, c'est pour cela que la Breita nous enseigne qu'il aura le droit de porter dans la moitié intérieure de l'impasse jusqu'à l'emplacement du poteau, et on ne craint pas qu'il porte au-delà. Amar Rava, Asa Lechi Lemavui, si une personne a placé un poteau à l'entrée d'une impasse, Vehigbiho Minag Karka Shlosha, et il l'a élevé de la terre, donc il l'a éloigné du sol d'une distance de 3 tfachim, Oshe Fligo Minakotel Shlosha, ou bien s'il l'a éloigné du mur d'une distance de 3 tfachim, Loasa Veloklum, il n'a rien fait, ce poteau n'est pas valable. Et cela parce que nous ne pouvons plus appliquer le principe de la voûte, selon lequel l'espace entre le poteau et le mur ou le sol sont comblés, car ce principe ne s'applique que lorsque la distance est de moins de 3 tfachim. La Gemara poursuit, « Afilu le Rabban Shimon ben Gamliel de Amar Amrinan Lavud » même selon l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que nous pouvons appliquer le principe de la voûte, même lorsqu'il y a une distance de 3 tfachim jusqu'à la distance de 4 tfachim, comme nous l'avons vu plus haut, « Hanemile » quand ces choses sont dites, « les malas » c'est uniquement lorsque l'espace à combler se trouve en hauteur. « Aval le mata » mais si l'espace à combler se trouve en bas, c'est-à-dire près du sol, « Kivan dehavia mechitsa sheagdaim bokimba » puisqu'il s'agit d'une clôture qui peut être facilement traversée par des chevaux, car ils peuvent passer facilement par un espace de 3 tfachim de large, « loka amar » dans ce cas, Rabban Shimon ben Gamliel n'a rien dit. Autrement dit, s'il est vrai que selon Rabban Shimon ben Gamliel, le principe de la voûte peut être appliqué jusqu'à une distance de 4 tfachim, cependant, lorsque l'espace à combler se trouve près du sol, le principe de la voûte ne pourra pas être appliqué, parce que même si on l'applique, nous nous trouvons en présence d'une cloison qui peut être facilement traversée par des chevaux, et dans ce cas, la cloison n'est pas valable. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Yossi Omer, Rochban Shlosha Tfachim. Rabbi Yossi dit que la largeur réglementaire du poteau doit être de 3 Tfachim. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, En halacha que Rabbi Yossi, la halacha n'est pas comme Rabbi Yossi, l'obéhilmi, ni concernant la saumure. C'est-à-dire, Rabbi Yossi dit dans la Mishnah, dans Maserhet Shabbat Daf Kufret Amudbet, qu'il est interdit de préparer de la saumure pendant Shabbat, même en petite quantité, tandis que les Chachamim permettent d'en préparer en petite quantité, velo belechayayim, ni en ce qui concerne les poteaux, lorsqu'il exige une largeur de 3 tfachim. Amarle, Ravuna Barchinena, Behilmi Amantlan, il est vrai que tu nous as dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi en ce qui concerne la saumure, belechayayin, lo Amantlan, mais tu ne nous l'as pas dit en ce qui concerne les poteaux. La Gemara demande, Maishna Behilmi, pourquoi tu dis qu'en ce qui concerne la saumure, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, dépliguer Rabbanan Aleh, car les Chachamim sont en désaccord avec lui, en permettant de préparer de la saumure pendant Shabbat en petite quantité. Les Chayayinami, en ce qui concerne les poteaux aussi, pliguer Rabbanan Aleh, les Chachamim sont en désaccord avec lui, en ne fixant aucune mesure minimale pour la largeur du poteau. Amarle, Rav Huna Bar Chinena lui a répondu, à Rav Yosef, Shani le Chayayim, en ce qui concerne les poteaux, c'est différent. Mishum de Kai Rebi Kevate, car Rebi est d'accord aussi avec lui, comme nous l'avons vu précédemment. Selon Rebi, la largeur réglementaire du poteau est fixée à 3 tfachim. Rav Rechumi Matnei Hachi. Rav Rechumi rédige l'enseignement précédent de la manière suivante. Ce n'est pas Rav Yosef qui dit au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, mais plutôt Amar Rav Yehuda Bereh de Rav Shmuel Barshilat Mishmeh de Rav. En halakha que Rabbi Yossi, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, l'obéhilmi, ni concernant la saumure, qu'il interdit de préparer pendant Shabbat, même en petite quantité, velobelechayim, ni concernant les poteaux, lorsqu'ils fixent leur largeur à 3 tfachim. Amroulé, ses élèves lui ont dit, Amart, dis-tu une chose pareille, est-ce que c'est vrai que tu dis que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi? Amar lehu, il leur a répondu, l'eau. Je ne dis pas une chose pareille. Amar Rava, Rava dit là-dessus, Haelokim, je jure au nom d'Hachem, Amra, il a dit une chose pareille, donc que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, ni concernant la saumure, ni concernant les poteaux. Vegamir nala mine, et je l'ai appris de lui, c'est-à-dire c'est lui-même qui m'a enseigné cet enseignement. Umaita ama kahadarbe, et pourquoi se rétracte-t-il en disant qu'il n'a jamais dit une chose pareille? Mishum de Rabbi Yossi mimukoimo, car nous savons que lorsque Rabbi Yossi dit quelque chose, il a des bonnes raisons pour le dire. Et c'est pour cela qu'il est difficile de dire que la halakha n'est pas comme lui. Amarle, Rava bar Rav Hanan le Abaye. Rav Hanan a posé la question suivante à Abaye. Hilchetamai, quelle est la halakha? Est-ce que la largeur du poteau est fixée à 3 tfachim comme Rabbi Yossi? Ou bien est-elle fixée comme les Chachamim, qui ne fixent aucune mesure minimale pour la largeur du poteau? Amarle, Abaye lui a répondu, Poukhazé Mai Amadevar, va voir comment les gens ont l'habitude de faire. Et tu verras que les gens ont pris l'habitude de placer des poteaux d'une taille quelconque à l'entrée des impasses sans tenir compte de l'opinion de Rabbi Yossi. Ika de Matnela, aha. Il y en a qui rapportent cet échange entre Rava bar Rav Hanan et Abaye sur le sujet suivant. Il s'agit de la Mishnah dans Masechet Brachot Daf Mendalet qui dit Hashote Maim Letzimo, celui qui boit de l'eau pour étancher sa soif. Par cette précision, la Mishnah veut exclure le cas d'une personne qui boit parce qu'il a un aliment coincé dans sa gorge, par exemple. Omer, il dit la bénédiction suivante. Béni sois-tu Hachem, etc. Shehakol Nihia Bidvaro, que tout a été créé par sa parole. Rabbi Tarfon Omer, c'est la bénédiction suivante qu'il doit dire. Béni sois-tu Hachem, Bore Nefashot Rabot Vechesonam, celui qui a créé des âmes nombreuses et ce qui est nécessaire à leur subsistance, c'est-à-dire la nourriture essentielle, alcool, mache, barata, etc. Et il remercie Hachem aussi pour tout ce qu'il a créé, qui est en fait facultatif, pour donner du plaisir par la nourriture aux êtres vivants. Amarle, Rav Hanan le Abaye. Rav Hanan a posé la question suivante à Abaye. Hilchetamai, quelle est la halakha? Quelle est la bénédiction qu'il faut faire lorsqu'une personne veut boire de l'eau? Est-ce qu'il fera la bénédiction de Shehakol ou celle de Boré Nefashot? Amarle, Abaye lui a répondu, Poukhazé Mai Amadevar, va voir comment les gens se conduisent et tu verras que les gens ont pris l'habitude de dire la bénédiction de Shehakol pour boire de l'eau. Et c'est seulement après avoir bu qu'on dit la bénédiction de Boré Nefashot. Nous avons fini sur le shiur de Masechet Eruvin Daf Yud Dalet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.